Conférence privée par le père Philippe à Rimont, le 4 mars 1988.
Allons continuer d'entrer dans ce mystère des grandes luttes. Nous avions vu chapitre 10 et chapitre 11. Chapitre 10, le petit livre qu'on doit manger. Chapitre 11, les deux témoins. Et je ne sais pas s'il y a un lien mystérieux entre les deux. Il semble bien que ce petit livre qu'on doit manger, c'est le mystère de la parole de Dieu, dont on doit redécouvrir toute la signification profonde. Il me semble. Parce qu'il faut le manger. La parole de Dieu est un pain. Elle est une nourriture. Et pour découvrir ce qu'il y a de substantiel à la parole de Dieu, il faut la manger. Puisque ce n'est qu'en mangeant qu'il y a une assimilation substantielle. Si on regarde la parole de Dieu uniquement selon des méthodes historiques ou des méthodes philologiques ou des méthodes soit toujours en référence avec un contexte historique selon la mentalité du prophète, selon les mœurs du temps. On ne touche pas l'aspect substantiel, et donc on ne la mange pas. Je crois que c'est ça qui nous est donné, c'est qu'il faut découvrir ce qu'il y a de substantiel dans la parole de Dieu. Verbum spirant samorem, c'est par le point de vue de la finalité que nous découvrons l'aspect substantiel de la parole de Dieu, puisque c'est par la finalité que nous rejoignons le mystère. Et on ne peut pas le rejoindre autrement. Alors ce mystère, il est à la fois doux et amer. Je crois que c'est toujours les deux grands aspects de notre vie chrétienne. Une douceur dans la présence et l'amertume dans le fait qu'il faut mourir à soi-même. La parole de Dieu est un glaive. Elle sépare ce qui en nous est trop de nous et ce qui est divin. Alors il y a nécessairement cette amertume impliquée dedans. Et la douceur, on comprend. Si la parole de Dieu est reçue et vécue d'une façon substantielle, elle nous unit au mystère, elle nous unit à l'aspect substantiel du Verbe de Dieu, du Christ. Et les deux témoins, nous l'avions vu, je crois que le prolongement ou la signification plénière de ces deux témoins, Moïse et Élie, nous aide à comprendre comment le mystère de l'Eucharistie, le mystère de Marie, doit prendre toute leur signification. Alors évidemment, ce sont ces deux mystères qui suscitent les témoins. Les apôtres des derniers temps sont liés à l'Eucharistie et à Marie. les deux secrets de la nouvelle alliance, les deux testaments du Christ, et donc qui portent le secret et qui nous livrent le secret. Et pour que ce secret soit vécu, il faut qu'il y ait des hommes qui en vivent pleinement. Alors il y a cette double période, il y a à la fois ce moment de reprise, de renouveau, et en même temps, ces grandes luttes qui s'achèvent par le martyr. Il y a un martyr qui est semblable à celui de Jésus et qui se termine par un mystère de sépulture. Vous voyez, le mystère du sépulcre qui est mis en très grande lumière comme ce qu'il y a d'ultime et dernier, et en même temps, là on touche, j'allais presque dire, comme l'abandon total, comme si Dieu abandonnait tout. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça s'exprime par ce fait que ces morts ne peuvent pas avoir de sépulture. Ils sont la risée de tous, comme si, de fait, les autres avaient été victorieux. Et juste avant les deux témoins, il y a la mesure du temple qui est reprise, je crois, pour nous indiquer comme le petit reste. Il ne semble pas du tout, d'après l'Apocalypse, hein, que l'Église termine dans un triomphe visible, un peu comme la croix du Christ. Le triomphe est intérieur, il est divin, mais extérieurement, c'est le grand échec. Il semble bien que ce soit ça qui est montré ici. Il y a un moment de renouveau où il y a comme une espèce de victoire, mais très vite, on trouve ce fait que ça se termine par une bataille terrible, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. C'est net. Et leur cadavre est sur la place de la grande ville, qui est appelée allégoriquement Sodome et Gomorrhe, Sodome et Égypte. La même où leur Seigneur a été crucifié. Et des hommes, d'entre eux les peuples, les tribus, donc, et des hommes, d'entre eux les peuples, et tribus, et langues, et nations, regardent leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Leurs cadavres, ils ne les laissent pas mettre dans une tombe. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à cause d'eux, et exultent. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, car ces deux prophètes ont torturé ceux qui habitent sur la terre. Et après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande peur tomba sur ceux qui les contemplaient. Ils entendirent venant du ciel une voix forte qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les contemplèrent. Et à cette heure-là, il y eut une grande secousse. Et le 1/10 de la ville tomba. Et dans la secousse furent tués 7 milliers de personnes. Et les autres furent saisis de peur. Il rendit gloire au Dieu du ciel. Mais ça reste très mystérieux, énigmatique, mais c'est quand même la grande lutte. Et l'acceptation de terminer sa vie comme Jésus la termine. C'est assez émouvant et il y a un parallélisme très net. accepté de suivre l'agneau partout il va, jusque dans cette lutte ultime, et j'allais dire jusque dans le mystère du sépulcre, avec la différence, c'est qu'ils n'ont pas de sépulture. C'est quand même dit avec netteté, ça. Et le septième ange sonna de la trompette. Il eut dans le ciel des voix fortes qui disaient « La royauté du monde a passé à notre Seigneur et à son Christ. Il règnera pour les éternités d'éternité. » Et les 24 vieillards qui, devant Dieu, sont assis sur leur trône, tombèrent sur leur face et se prosternèrent devant Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est et celui qui était, de ce que tu as pris ta puissance, la grande, et établis ton règne. Les nations s'étaient mises en colère, et elle est venue ta colère, et le moment de juger les morts, et de donner le salaire à tes esclaves, le prophète, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, aux petits et aux grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le sanctuaire de Dieu s'ouvrit, celui qui est dans le ciel, y apparut l'arche de son alliance dans son sanctuaire, et eut des éclairs, des voix, et des tonnerres, et une secousse, et une forte grêle. Ça se termine comme ça. La septième trompette. Avec la septième trompette, on entre dans le ciel. Comme le septième sceau, un grand silence. Et c'est la grande victoire qui éclate. Et c'est le sanctuaire de Dieu qui s'ouvrit, celui qui est dans le ciel, et apparut l'arche de son alliance dans son sanctuaire. Il y a des éclairs, des voix et des tonnerres. Ça, c'est l'Esprit Saint, c'est l'action de l'Esprit Saint. Et une secousse, une forte grêle. Alors, c'est très curieux. Cette secousse, on comprend. Et la forte grêle, comme dernier lieu, c'est assez étonnant. Comme c'était une dernière purification. Je crois. Mais ce qui est très net, c'est l'entrée dans le ciel. C'est la gloire. Voyons, on ne dit pas le retour de Jésus sur la terre. On montre comme se terminant dans le ciel. Alors, chapitre 12, nous entrons dans quelque chose de tout à fait différent. On dit les sept signes, je n'aime pas beaucoup, parce qu'en réalité, vous voyez qu'il n'y en a pas sept. Alors, c'est pas un phénomène tout simplement de ressemblance qu'on dit ça, mais c'est extérieur. Je crois qu'il ne faut pas dire du tout ça. Vous avez les sept sceaux, donc les sept déterminations du livre de vie, les sept trompettes, le point de vue, on peut dire, de l'exécution, ce que nous avons essayé de comprendre. Alors, c'est toujours entre le sixième et le septième, que tout l'aspect le plus terrible se passe. Sixième sceau, sixième trompette. Et septième, on est dans le ciel. Il y a des similitudes comme ça qui se retrouvent. Tandis qu'ici, les trois signes, vous allez voir, les trois signes, c'est tout à fait autre chose. Je crois que c'est nous donner l'intelligence de la lutte manifestée du côté des sceaux et d'une manière des trompettes. C'est comme une attitude réflexive, si vous voulez. On donne la signification. Signes sont des signes. On nous fait entrer dans le sens de la lutte. Jusqu'ici, on n'a pas vu. C'est très très curieux, du reste. On aurait pu donner ça au début, hein. Voilà quel est le sens de la lutte. Vous voyez, si on avait pris un ordre, dit tactique, alors il faudra se demander pourquoi il y a cet ordre. Est-ce que c'est un ordre de sagesse? Alors comment se fait-il qu'il y a cet ordre? Puis vous reprendrez après les sept coupes. Donc il y a nettement là un quelque chose de particulier. Et c'est trois signes. De fait, il y en a trois. Alors ce passage, on le connaît bien. Il est connu. Il est grand. Et il a paru un grand signe dans le ciel. Donc, le signe, il est donné dans le ciel. Donc, un signe dans la contemplation. Une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de trois étoiles. Vous voyez, l'image de Dieu, les trois dimensions qu'on retrouve à travers toute l'écriture. C'est ça qui est très curieux. Les trois dimensions, c'est le reflet de la très sainte Trinité dans l'image. Et vous regardez le début de l'écriture, vous voyez les trois grandes dimensions de l'homme et de la femme créées à l'image de Dieu. Ici, vous ne voyez que la femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Alors on peut dire enveloppée du soleil, c'est l'amour. La lune sous ses pieds, c'est la domination. Et sur sa tête une couronne de 12 étoiles, la lumière. Vous voyez, si on prend les trois dimensions de l'image de Dieu, dominium, intelligence et amour. Vous avez ici l'amour, le dominium et l'intelligence. Et par là, comme un reflet du mystère trinitaire, l'amour, c'est l'Esprit Saint et Marie enveloppée du soleil. Le soleil, c'est le Christ, mais elle est enveloppée par l'Esprit Saint du Christ. La lune sous ses pieds, elle domine. Elle est reine. Et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Tout le mystère de la fécondité. Et elle crie dans les douleurs et les tortures de l'enfantement. La fécondité et la douleur dans les douleurs de l'enfantement. Les tortures de l'enfantement. Il apparut un autre signe. Et voici un grand dragon, rouge feu. Alors le gros dragon, c'est dit plus loin, c'est le serpent antique qu'on retrouve ici sous la forme du dragon. Alors là aussi, c'est très curieux, c'est que nous voyons à l'égard du démon cette marque d'opposition vis-à-vis de la très sainte Trinité. C'est le serpent, c'est le dragon, c'est l'adversaire. C'est les trois aspects qui expriment l'anti-Trinité. Le dragon rouge feu, alors il ne décolère jamais, en pleine colère, ayant sept têtes et 10 cornes. Sept têtes pour montrer qu'il a gardé toute son intelligence. Mais tout est ordonné vers la puissance, vers la domination. Et il y a un déséquilibre, puisqu'il y a sept têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, sept diadèmes, sept conquêtes. Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel. Le mépris souverain du démon pour notre univers. Il ne regarde même pas le ciel, les étoiles. Sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel. Il faut le comprendre symboliquement, c'est évident. Cette espèce de joie qu'a le démon de faire tomber les étoiles du ciel sur la terre. Sa plus grande joie. Il fait ça avec un mépris souverain. assez impressionnant de voir ce symbolisme du dragon rouge feu ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Vous avez le point de vue des têtes dépassées par la puissance et ordonnées vers la puissance. Et la puissance, elle donne le sens à tout ce qu'il est, puisque cette puissance exprimée par les 10 cornes est dépassée par les 7 diadèmes sont sur la tête. Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel, il les jeta sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter pour dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Et elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec une houle de fer, une houlette de fer. Et son enfant fut emporté vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle a un lieu préparé par Dieu pour qu'on les nourrisse pendant 1260 jours. Voyez, je crois que on veut nous faire comprendre que tout l'enjeu de la lutte, c'est la femme. Toute la signification de la lutte, c'est la femme. Or, la femme, ici, c'est assez net. Les meilleurs exégètes de Saint Jean n'hésitent pas de le dire aujourd'hui. C'est assez récent. Le père Brown avait commencé de le dire. Ça avait été extrêmement critiqué. Puis depuis, le père Feuillet le dit. Et depuis même, c'est dans le dictionnaire de spiritualité. Donc c'est complètement entériné. Et on dit que première signification de la femme, c'est Marie. Alors que le père Allot, au début du siècle, disait que le premier analogué de la femme, la première signification de la femme, c'était l'Église. Si on regarde attentivement, on voit bien que ce n'est pas l'Église. Ça ne peut pas être l'Église. La femme ici ne peut être que Marie. C'est la mère. Et la mère qui met au monde un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec une houlette de fer. Donc, il semble bien que les deux maternités sont vues l'une dans l'autre. Et c'est ça qu'il faut bien saisir. Il y a la maternité joyeuse de la tête de Jésus, puis il y a la maternité douloureuse. C'est Marie au pied de la croix qui enfante l'Église. Et les deux maternités sont vues dans un seul regard, ce qui est très beau du reste. C'est bien un regard de sagesse, vous voyez. C'est le regard en plénitude du mystère de Marie. Elle est immaculée. Elle est la mère de Jésus. Elle est la mère de l'Église. Et tout ça est vu dans un seul regard. Et c'est elle qui donne le sens à la lutte. La lutte, toute cette grande lutte est contre elle. Parce que justement, en elle se manifeste la grande victoire du Christ Rédempteur, la grande victoire de la croix. Marie est le grand trophée de la croix. Et donc, c'est vraiment sur elle que toutes les colères, il s'agit bien des colères, toutes les colères du démon se déchaînent. Déchaînement complet. Le dragon rouge feu ne peut pas supporter Marie. Et quand Harry est là, il fait tout ce qu'il peut pour la détruire. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter pour dévorer son enfant. Il sait bien que l'attaque la plus forte qu'il peut, c'est de dévorer l'enfant, s'il le peut. C'est par là qu'il attaquera le plus la femme. Mais quand on pense à la croix, on voit bien qu'à la croix, le démon est persuadé qu'il est victorieux, qu'enfin il va se taire, qu'enfin il est battu, dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Tant qu'il est porté par Marie, le démon ne peut rien. Dès qu'il naît, il est dans notre univers et le démon peut s'approcher de lui. Mais il est souligné que le démon ne peut rien contre lui. Et son enfant fut emporté vers Dieu et vers son trône. Vous voyez le grand mystère de la vision béatifique dans l'âme de Jésus. Je crois que c'est signifié là. Et c'est en ce sens-là que le démon ne peut rien sur lui. Si la grâce du Christ est une grâce qui s'achève dans la gloire, par le fait même, dès le premier instant de sa grâce, s'achevant dans la gloire, le démon ne peut rien contre lui. Son enfant fut emporté vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert. Parce que justement, si son fils ne peut en rien être attaqué par le démon, s'il lui échappe complètement, sauf quand Jésus permettra au démon de s'approcher de lui au désert. Normalement, le démon a une frousse intense de Jésus. Il ne s'approche pas. Malgré sa curiosité. Tandis que vis-à-vis de la femme, elle est une pure créature, transformée par la grâce, évidemment. Mais elle reste une créature, donc elle est vulnérable. Elle peut pécher. Et le démon le sait. Il sait que Marie peut pécher. Il fait tout pour l'entraîner. Et alors c'est pour ça que la femme s'enfuit au désert où elle a un lieu préparé par Dieu pour qu'on l'y nourrisse pendant 160 jours. Très curieux, ce spectacle. Hein. Marie qui s'enfuit au désert. Alors prenons-le spirituellement hein, et intérieurement. S'enfuir au désert, c'est dans entrer dans l'adoration. Dès que vous adorez, le démon perd votre trace. Il ne faut jamais oublier ça. Dès que vous adorez, vous êtes pris directement sous la protection de Dieu, du Créateur, du Père. Et le démon ne peut plus rien contre nous. Et donc on fuit au désert. Ce qui montre hein, combien Marie a vécu d'un mystère d'adoration. C'est son désert. Et c'est ça qui lui donne la force. Et c'est ça qui, en même temps, la rend invulnérable. Je crois que c'est une très grande vision qui nous donne le sens de toutes les luttes. Toutes les luttes sont d'une manière directe ou indirecte contre Marie. C'est le point vulnérable, si vous voulez, de toutes les attaques du démon. Parce que elle est, comprenons-le bien, elle est comme la vengeance, mais une vengeance d'amour. le démon est arrivé à faire tomber Ève. Et Dieu réhabilite Ève dans la nouvelle Ève, dans Marie. C'est une réhabilitation divine qui se sert de la faute pour aller plus loin dans l'amour, pour communiquer un plus grand amour. Et donc pour le démon, Marie est insupportable, au sens très très fort, parce qu'elle est immaculée. Donc le démon n'a jamais connu qui était Marie. Il n'a jamais pu pénétrer en elle. Elle est immédiatement protégée par la miséricorde du Père. Elle est enveloppée de la miséricorde du Père. Et donc le démon ne peut pas pénétrer en elle. Elle échappe totalement au démon. Et c'est ce qui explique comment le démon se croit lésé. Par Marie, parce que le démon transforme tout de suite, à cause de son orgueil, transforme les permissions que Dieu lui donne en droit. Il ne faut jamais oublier ça. Vous savez, quand on vous accorde une permission, puis 8 jours après, vous demandez exactement la même permission, et on vous la refuse. Quelle est votre réaction première ? Mais on me l'a accordé il y a 8 jours. On a transformé la permission en droit. C'est notre orgueil qui fait ça. Et qu'à réfléchir, vous verrez que spontanément on fait ça. Tout de suite. On transforme les permissions en droit. Et le démon fait ça souverainement. Dieu lui permet d'avoir une grande permission sur la race humaine, conséquence du péché originel. Or, Marie échappe. Et le démon ne connaît rien en elle. Alors pour lui, c'est comme s'il était frustré de ses droits. Frustration, d'où cette colère et cette fureur. Il est en colère devant la femme. Parce qu'il est frustré de ses droits. Il se croit frustré de ses droits. Et le mystère de la maternité divine de Marie le met encore plus en rage. Que Dieu se serve de la femme pour réaliser son œuvre. Lui s'est servi de la femme pour faire tomber Adam. Et Dieu se sert de la femme pour réaliser son chef-d'œuvre, le mystère du Verbe incarné. C'est intolérable pour lui. Voir comment Dieu s'abaisse à cela, exalte la pauvre petite créature, la plus faible, la plus fragile. C'est insupportable pour lui. Et là, on comprend très bien cette rage contre l'enfant et cette rage contre la mère, cette double rage. Et comment le démon essaie par tous les moyens d'ébranler. Et alors, pour nous donner l'intelligence plus profonde de cette lutte, on va nous montrer que avant la première faute des hommes, il y a une première faute plus radicale. Plus terrible. La faute de celui qui s'est révolté contre Dieu. C'est le combat du ciel. Avant le combat sur la terre, il y a un combat dans le ciel. Il y eut une guerre dans le ciel. Michaël et ses anges faisaient la guerre au dragon. Et le dragon fit la guerre, ainsi que ses anges. Ils n'eurent pas le dessus. Vous ne trouverez plus leur place dans le ciel. il fut jeté, le dragon, le grand dragon, le serpent, l'antique serpent, celui qu'on appelle diable, et le Satan, celui qui égare le monde entier, il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Ça, c'est le grand combat, c'est le lieu le plus net et le plus explicite de toute l'Écriture sur le péché de l'ange. On y reviendra.